un temps pour lire.
Nous partageons aujourd'hui la lecture d'un ouvrage qui va nous faire voyager à travers les pays de Savoie, et oui, chez nous. Un livre de Pierre Hoffmann intitulé « Au lieu de l'histoire en pays de Savoie » paru chez Le Papillon Rouge éditeur. Nous allons le parcourir en compagnie de son auteur aujourd'hui. Pierre Hoffmann, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir que de vous retrouver pour ce troisième ouvrage qui nous permet de mieux connaître notre territoire et son histoire. Après, ces Savoyards qui ont fait l'histoire et femmes d'exception en Savoie, ce ne sont pas des personnages mais des sites que vous nous faites découvrir avec « Au lieu de l'histoire en pays de Savoie ». Est-ce que c'est un territoire dans lequel, Pierre Hoffmann, vous aimez vous promener? Il me semble que oui.
Bien entendu. N'étant pas Savoyard de naissance, mais vivant dans cette belle région depuis une quinzaine d'années, j'ai tenu à m'intéresser de près à l'histoire, à la géographie, à la vie des gens dans ce beau pays.
Est-ce qu'il y a des lieux de prédilection que vous aviez et très probablement d'autres que vous avez découverts à la rédaction de ce livre ?
Oui, alors des lieux de prédilection, bien entendu, nous en avons tous. Je pense à deux endroits plus particulièrement. Je ne vais pas fâcher les Hauts-Savoyards, mais j'aime beaucoup les Bauges, le massif des Bauges, et par ailleurs le massif du Beaufortin. Cela dit, habitant à Loire, il est évident que les environs du lac d'Annecy sont particulièrement merveilleux. Évidemment, le travail autour de l'écriture du livre dont nous allons parler m'a permis, par ailleurs, de découvrir des endroits particulièrement intéressants, aussi bien sur le plan géographique, historique, endroits attachés à une légende, endroits attachés à des histoires parfois oubliées, et c'était une façon de les remettre un petit peu, sinon au goût du jour, du moins de rafraîchir un peu les mémoires.
Dans le titre de votre livre, il est question d'histoire. À chaque fois dans ces ouvrages chez Le Papillon Rouge éditeur, il est question d'histoire. Vous nous permettez cette fois-ci de remonter plusieurs millénaires en arrière. Je vais vous inviter à nous raconter cela et nous allons jeter un œil à différents sites, en particulier le tout premier qui se trouve dans la Chartreuse, à Entremont-le-Vieux, et c'est celui qui, enfin un de ceux qui nous ramène le plus loin en arrière.
Absolument. Précisément, l'écriture de ce livre m'a permis de découvrir le magnifique musée d'Entremont-le-Vieux, petite commune de 700 habitants environ, en Chartreuse, donc en Savoie, au pied du Mont Granier. Alors là, on est plus dans la géographie que dans l'histoire. Le Mont Granier, qui est un véritable gruyère calcaire, et qui a connu un éboulement, un effondrement au XIIIe siècle, épouvantable, provoquant la mort de plusieurs milliers de personnes, et qui fait l'objet d'ailleurs d'un autre texte dans le livre sur le sujet. Le Mont Granier, donc, qui est à l'époque moderne, évidemment, un endroit très intéressant pour les spéléologues. Et précisément, deux spéléologues savoyards découvrent un jour un gisement d'ossements d'ours des cavernes qui s'avère être le plus important gisement d'Europe. Donc, nous remontons, comme vous l'avez dit, très loin dans le temps, c'est-à-dire à la dernière petite période glaciaire, environ 10 000 ans en arrière, où, bien entendu, l'immense majorité du territoire actuel était recouverte par les glaces. Dans ces cavernes vivaient donc des centaines, voire des milliers d'ours des cavernes qui passaient l'hiver dans ces grottes, notamment au pied du Mont Granier.
Et donc il y a là-bas, à Entremont-le-Vieux, un joli petit musée qui permet de découvrir tout cela. Partons dans un autre lieu, venons en Haute-Savoie cette fois, avec le Reposoir, qui est un lieu qui porte bien son nom, qui est visité, mais pas forcément énormément, et c'est tant mieux d'ailleurs pour cet espace-là. Expliquez-nous pourquoi.
Alors on peut dire un mot sur l'origine de ce mot Reposoir. Au XIIe siècle, vous savez qu'au XIIe siècle, il y eut l'édification de beaucoup de monuments religieux, beaucoup de cathédrales en particulier, beaucoup de monastères, beaucoup d'abbayes. Et donc, au XIIe siècle, un moine chartreux, Jean d'Espagne, découvre le vallon au pied du massif des Aravis. Et lorsqu'il aperçoit ce décor, encore sauvage à l'époque, bien sûr, il s'exclame « C'est ici mon reposoir », d'où le nom que nous connaissons aujourd'hui. Donc il faut bien avoir en tête que ce Carmel du reposoir a une histoire très longue. Donc je raconte dans le livre toutes les aventures, si l'on peut dire, qui ont marqué la vie de ce monastère, puis de ce Carmel. Et aujourd'hui encore, une vingtaine de moniales travaillent, prient, se recueillent, le plus souvent évidemment dans le silence, dans le Carmel du reposoir.
Continuons notre périple, Pierre Hoffmann. Retournons en Savoie. J'ai une petite question, parce que pour moi, c'est quand même une découverte, tout ce qui s'est passé dans cet endroit-là. Qu'est-ce que la Bastille savoyarde ?
Alors, la Bastille savoyarde, c'est le château de Miolan, qui domine la vallée de l'Isère, du côté de Saint-Pierre d'Albigny. Alors, la Bastille savoyarde, la forteresse de Miolan, permettait, si je puis dire, aux dirigeants de la Savoie de se débarrasser facilement d'opposants, permettait à certaines familles, j'allais dire, avec une expression un peu triviale, de mettre à l'ombre certains membres, notamment certains enfants qui leur causaient des ennuis. Bref, cet endroit a vu passer, du milieu du XVIe siècle jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire au moment où les troupes révolutionnaires françaises, en 1792, sont arrivées en Savoie, a vu passer plus de 200 prisonniers, dont le marquis de Sade, prisonnier illustre, mais qui a rapidement réussi à s'évader de cette prison. On peut dire que c'était une prison d'État, puisqu'elle était sous la direction de la maison de Savoie.
Une prison située dans un cadre superbe, mais on n'a pas tellement envie d'y séjourner, néanmoins, dans cette prison, fameux château de Miolan. Nous continuons notre périple, Pierre Hoffmann. Il y a tellement d'endroits, hein. Vous en avez mentionné 45 dans votre ouvrage, c'est bien ça, en essayant d'équilibrer donc entre Savoie et Haute-Savoie. Je vous propose d'aller faire un tour du côté du château de Ripaille, qui quelque part ne porte pas si bien son nom que cela. J'aime bien le clin d'œil que vous faites entre les deux chapitres qui s'enchaînent, parce que entre Ripaille, vous allez vers Gargantua, un lien assez clair, pourtant dans des domaines très différents.
Alors oui, beaucoup de, sinon de légendes, du moins d'interprétations diverses et variées, ont été émises à propos de l'expression « faire Ripaille ». Alors, revenons d'abord sur l'origine du mot « Ripaille ». En l'espèce, dans le nord de notre département actuel de la Haute-Savoie, donc près de Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, il y avait une étendue de broussailles, de mauvais bois, que l'on appelait à l'époque des ripes, avec deux P, d'où le mot ripaille. Et donc dans cette région un petit peu sauvage, même très sauvage, eh bien les comtes de Savoie quittaient leur château de Chambéry. Vous savez que jusqu'en 1563, Chambéry était la capitale où résidaient les comtes puis ducs de Savoie, qui ensuite sont partis à Turin. Eh bien, ces dignitaires de la maison de Savoie aimaient se rendre à Ripaille pour, non pas faire ripaille, mais pour chasser. Donc au départ, une modeste construction. Et puis, petit à petit, les dites constructions ont été grandement développées, et à la belle saison, c'était pratiquement toute la cour de Chambéry qui se déplaçait à Ripaille. Alors, Amédée VIII, qui fut un des grands, sinon le plus grand, des dignitaires de Savoie, vers la fin de sa vie, alors qu'il avait perdu son épouse, qu'il était très pieux, Amédée VIII, avec six de ses hauts dignitaires, veufs comme lui, très pieux comme lui, s'est retiré à Ripaille, où il a mené une vie très simple et très frugale. Donc, en l'espèce, on ne peut pas dire que le terme de faire Ripaille pouvait s'appliquer à Amédée VIII et à ses amis.
Oui, c'est étonnant de voir comment on détourne parfois certaines perspectives pour les amener à ce qui nous convient finalement. Alors, rendons-nous vers le lieu où on peut imaginer que Gargantua a, lui, pour sa part, fait véritablement ripaille, en tout cas bien profiter d'une grande table avec toute une série de mets succulents. Enfin, c'est ce que notre imagination nous amène à penser.
Alors oui, alors Gargantua, lui, se dirigeait à grande enjambée, bien sûr, vers l'Italie, et il vit devant lui, tout d'un coup, une sorte de barrière, c'était la barrière des Alpes, c'était le massif du Mont Blanc, et donc Gargantua, qui était bien gentil, mais qui était souvent coléreux, s'énerva rapidement, il prit son élan, et d'un coup de botte, il frappa la montagne, ce qui ouvrit une brèche qui constitue aujourd'hui d'ailleurs la brèche des Aravis, ce qui projeta dans les airs un énorme rocher qui survola Flumé et qui finit par s'écraser dans un bruit effrayant, une grande poussière, dans le Beaufortin. Les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans la région, évidemment, furent complètement affolés et appelèrent ce bloc monolithique la pierre qui monte, la pierre Amanta.
Alors on pourrait parcourir avec vous, grâce à votre livre, au lieu de l'histoire en Pays de Savoie, plein d'autres endroits. Moi je pense à la Dent du Chat qui a vu passer le Tour de France et un certain Poulidor, mais pas que lui bien entendu. Je pense aussi au berceau du parapente, Mieuxcy, mais je ne savais pas qu'il y avait dans notre région un repère pour ce bandit de grand chemin qui était Mandrin. On découvre cela à Saint-Genis-sur-Guye en particulier, où il avait toute une série de grottes où se réfugiés. Pour terminer, je vous propose, Pierre Hoffmann, que nous venions à ce village que vous habitez, très beau village au bord du lac d'Annecy. On ne mesure pas forcément depuis combien de temps il existe avec son abbaye, ce village-là. C'est tout un pan d'histoire, là encore.
Oui, absolument. Habitant à Loire, je ne pouvais pas ne pas évoquer l'ermitage de Saint-Germain. Saint-Germain, le premier prieur du prieuré ou de l'abbaye de Taloire, et qui, dans un décor exceptionnel, bien entendu, tous les soirs, remontait de Taloire jusqu'à Saint-Germain, c'est-à-dire dans une grotte en réalité, à flanc de montagne, où il passait la nuit. Le lendemain matin, il redescendait à l'abbaye de Taloire pour les offices, pour travailler, pour rendre service aux autres. Avec le temps, en vieillissant, bien sûr, cette pratique est devenue de plus en plus périlleuse et de plus en plus difficile, tant et si bien que les habitants des hameaux autour de Saint-Germain lui vinrent en aide, tant sur le plan de l'hébergement que sur le plan de la nourriture. Et après sa mort, l'endroit est devenu un lieu de vénération pour la population locale et rapidement des pèlerinages ont été organisés. On sait d'ailleurs que François de Sales, en particulier, aimait particulièrement à venir se recueillir à Saint-Germain, qui devint d'ailleurs une paroisse un temps. À Taloire, il y avait deux paroisses. Il y avait celle de Taloire à proprement parler et celle de Saint-Germain. Il y avait la paroisse d'en bas et la paroisse d'en haut. Et on peut aujourd'hui contempler l'église récemment rénovée, magnifique, et dans une petite chapelle à gauche du chœur, se trouvent des reliques de Saint-Germain.
Voilà pour Taloire. Plein d'autres lieux donc qui sont présents dans votre livre, Pierre Hoffmann. Vous commencez, on l'a dit tout à l'heure, avec Entremont-le-Vieux, qui met en perspective les hauts lieux de ce territoire, et l'histoire, et la préhistoire presque même. Vous terminez avec la mer de glace, avec une question que l'on se pose tous. Est-ce qu'il faut encore aller la visiter? Est-ce qu'on peut encore en profiter? Est-ce qu'elle n'a pas tellement changé qu'un jour elle va disparaître? Enfin, il y a toutes ces questions-là que vous évoquez d'ailleurs avec une légère pointe, tout du moins d'interrogation, peut-être même d'ironie.
Oui, effectivement, tout le monde sait que la mer de glace, hélas, porte de moins en moins bien son nom. Elle devient, au fil des années, une espèce de fleuve anémié, en quelque sorte. Dans le livre, il y a des photos du début du siècle dernier, où on voit comment la mer de glace s'approchait, si je puis ainsi m'exprimer, de la vallée de Chamonix. À tel point d'ailleurs que dans les périodes précédentes, vous le savez, des processions religieuses avaient lieu régulièrement chaque année en implorant le ciel que la mer de glace ne continue pas d'avancer et par là même de rayer de la carte des hameaux. Alors aujourd'hui, bien entendu, on le sait, c'est le phénomène inverse, le réchauffement du climat fait que la mer de glace, depuis, on va dire, 1900 en gros, diminue considérablement, d'une part en épaisseur, elle a perdu plus de 200 mètres, dont 100 mètres depuis 1990, donc c'est une accélération assez notable, et en longueur, elle a perdu plus de 2 km, si bien que des spécialistes affirment que, à ce rythme, dans sa partie terminale, la mer de glace aura totalement disparu d'ici la fin du siècle. Pour autant, il faut rester peut-être optimiste et se dire qu'un jour, peut-être, un refroidissement du climat interviendra et que, de nouveau, comme cela s'est produit dans l'histoire de notre bonne vieille Terre, que de nouveau, les glaciers, y compris la mer de glace, retrouveront un aspect plus engageant.
Nous ne serons pas là pour en parler à ce moment-là, mais peut-être que dans quelques temps, dans quelques millénaires, quelqu'un écrira à ce propos. Nous n'en savons rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons là sous la main votre livre, Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en Pays de Savoie, et que c'est l'occasion de 45 voyages, soit par l'intermédiaire de ce livre, soit en allant directement sur place. Et c'est peut-être le moment de le faire, là, pour visiter, découvrir ou redécouvrir l'ensemble de ces lieux. Merci Pierre Hoffmann de nous avoir présenté succinctement ce livre, parce qu'évidemment il y a beaucoup plus de choses à découvrir que ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous serez en dédicace dans différents endroits de notre territoire aussi prochainement. Nous aurons l'occasion de l'annoncer sur cette antenne. Merci Pierre Hoffmann et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.